Tamani, voici nos informations en français.
Le médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan est à Bamako depuis quelques heures. L'objectif de cette visite est la définition d'un chronogramme consensuel avec les autorités. De leur côté, les populations attendent de cette visite la levée de l'embargo. Insécurité, un convoi de la base militaire de Niafunke a été la cible d'une embuscade hier. Dans la même journée à Kita, un policier a été assassiné lors d'un contrôle de car de transport au poste de la localité. Culture, du 17 au 19 mars 2022, le Palais de la Culture va vibrer au rythme de la 7e édition du Festival du Donsongoni. Quel est le rôle des donsos dans la société? Qu'est-ce que le Donsongoni? Des éléments de réponse dans ce journal. À la présentation, Hamsi Toutouri. Bonsoir à tous. Comme annoncé dans le sommaire, une délégation de la CEDEAO, conduite par Goodluck Jonathan, est arrivée ce vendredi à Bamako. La définition d'un chronogramme pour la tenue des prochaines élections avec les autorités de la transition est un des principaux objectifs de cette visite. Elle intervient dans un contexte marqué par les sanctions de la CEDEAO contre le Mali depuis 2 ans. Les détails avec Adama Hamadou Aïdara.
Il s'agit de la 3e visite de Goodluck Jonathan à Bamako au cours de cette année 2022. À la veille de cette nouvelle arrivée du médiateur de la CEDEAO à Bamako, le président sénégalais Macky Sall avait annoncé dans un tweet qu'il s'est entretenu avec le colonel Assimi Goïta. « Je soutiens la reprise du dialogue pour une solution négociée de la crise au Mali », indiquait-il dans son tweet. Quelques jours plus tôt, le premier ministre Choguel Kokalamiga avait reçu une délégation de la société civile ivoirienne. Cette délégation a souligné que la Côte d'Ivoire, je cite, « souffre également de l'embargo injuste infligé au Mali ». Rappelons que la 2e visite en 2022 de la CEDEAO a eu lieu en février dernier. Cette visite avait aussi pour objectif de trouver des voies et moyens pour relancer le dialogue entre la partie malienne et l'organisation ouest-africaine. Mais après 2 jours d'échange, les deux parties n'avaient pas trouvé de compromis. Cette 3e visite de la CEDEAO permettra-t-elle de lever les sanctions contre le Mali? De nombreux Maliens disent l'espérer dans un contexte marqué par la hausse des prix des denrées de première nécessité.
La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali COSEM se dit inquiète du retard pris dans la publication d'un nouveau chronogramme électoral. C'est du moins ce qu'a déclaré Drissa Traoré, président de l'organisation. Il invite les autorités maliennes et celles de la CEDEAO à s'entendre sur un délai raisonnable et acceptable par tous. Drissa Traoré est joint par Imrana Kiloumaïa.
Depuis la fin d'année, il était prévu qu'on ait un chronogramme de la transition. Donc, entre-temps, il n'y a pas eu d'entente entre les autorités maliennes et celles de la CEDEAO pour convenir d'une durée de la prorogation de la transition. Et ça nous inquiète parce que nos organisations, suivant un peu les processus électoraux, nous sommes souciés effectivement du délai pris dans les retours à l'ordre constitutionnel. On s'est beaucoup réjouis du fait qu'il y a eu cette ouverture de la part des autorités maliennes, mais aussi il y a eu l'oreille attentive de la CEDEAO, donc ce qui a permis de converger un peu vers la mise en place de ce groupe de travail qui a pour objectif de réfléchir sur un chronogramme. Donc ça veut dire que déjà les signaux sont positifs pour aller vers la fixation d'un chronogramme de la transition acceptable par tous.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Depuis hier jeudi, RFI et France 24 n'émettent pas au Mali suite à la décision du gouvernement d'interdire leur diffusion sur le territoire. Cette décision est différemment appréciée par les organisations de médias et des droits de l'homme. La Maison de la presse du Mali invite les médias à davantage de responsabilité dans le traitement des sujets sensibles. Les détails avec Arkia Touré.
Reporters sans frontières qui condamnent la mesure dénoncent aussi une menace contre la liberté d'expression au Mali. Le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger, estime que les populations vont être privées d'informations essentielles. Dans un communiqué, les responsables de l'Union internationale de la presse francophone disent que cette décision va porter une grave atteinte à la liberté d'information et peut avoir des conséquences sur la profession dans le pays. De son côté, l'Union des journalistes du Mali dit prendre acte de la décision du gouvernement à suspendre ses médias au Mali et exprime son attachement à la liberté de la presse. Cependant, UGRM dénonce l'acharnement des médias étrangers contre l'armée malienne. Ainsi, elle dit apporter tout son soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali dans leur lutte contre le terrorisme. La Commission nationale des droits de l'homme a rappelé les textes relatifs à la liberté d'expression et les sanctions conformes à leurs violations. En revanche, la CNDH estime que les populations ne devraient pas être privées de la jouissance du droit fondamental à l'information. Enfin, la Maison de la presse juge la décision de suspension sévère, mais son président Bandjougou Danté invite les médias à davantage de responsabilité dans le traitement des sujets sensibles. RFI et France 24 sont accusés de rapporter des fausses allégations d'exactions commises par l'armée malienne.
Je l'annonçais dans les titres, des attaques contre les forces armées maliennes, assassinats ciblés et enlèvements ont eu lieu cette semaine au nord, centre et le sud du pays. Les populations de ces localités se disent préoccupées par la situation. Elles demandent aux autorités de prendre plus de dispositions. Le point avec Aïssata Diarra.
C'est jeudi, aux environs de 10h, un convoi de la base militaire de Niafunké a été la cible d'une embuscade. Selon des sources locales, le bilan serait d'un mort et 3 blessés. L'incident a eu lieu à environ 20 km de Niafunké dans la région de Tombouctou. Des recherches seraient en cours dans la zone pour y retrouver les assaillants, précisent les mêmes sources. Le même jour dans la soirée, à Kita, au sud du pays, un adjudant de police a reçu une balle dans la tête par un inconnu. C'était au cours d'un contrôle de pièces d'identité des usagers d'un car, explique des témoins. D'après ceci, l'assassin aurait pris la fuite après les faits. Des enquêtes sont ouvertes pour appréhender le malfaiteur. Par ailleurs, un enseignant du premier cycle de Ouattagouna et son véhicule ont été enlevés par des hommes armés à moto dans la région d'Ansongo mercredi. Selon ses proches, l'enlèvement a eu lieu lorsqu'il partait à la foire de Ouattagouna. Depuis, aucune nouvelle de l'enseignant.
Autre titre de ce journal, la 7e édition du Festival d'Onsogoni a démarré hier jeudi au Palais de la Culture de Bamako. Du 17 au 19 mars 2022, les Donso venus de tout horizon prendront part à ce festival. Les Donso sont des chasseurs traditionnels très répandus au Mali et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont généralement vêtus d'un habit en coton aux couleurs de la nature et tiennent un fusil. Quel est le rôle des Donso dans la société? C'est quoi le Donsogoni, la musique des chasseurs? Les Donso résistent-ils aujourd'hui à la modernité? Notre reporter Moussa Mali Sissoko s'est intéressé à ces questions.
Tenema Togola est un vieux chasseur. Il vient de l'arrondissement de Koumantou, région de Bougouni. Il déplore que la pratique se trouve aujourd'hui à cheval entre le modernisme et la tradition.
Le fait d'être Donso perd sa valeur de plus en plus. C'était sacré où l'initiation à la confrérie consistait à confier un candidat à un grand chasseur qui enseigne les valeurs des droitures, l'honnêteté et la disponibilité de Donso. Les chasseurs ont été à l'avant-garde de toutes les guerres au Mali.
Cet avis est partagé par Seydou Mariko, qui est aussi un donso à Zantiebougou. Selon lui, le chasseur doit s'occuper de la santé, de la défense et de la protection des personnes et de leurs biens dans le village.
Donsogoni est un divertissement pour les donso. C'est une danse qui magnifie les héros, les vaillants chasseurs, après leur exploit à la chasse. Cette danse s'est propagée partout avec l'évolution du monde. Nous partons dans la forêt, affronter les serpents, les djinns et autres êtres vivants les plus féroces pour tuer des animaux. Il faut être un donso pour le faire.
Le chasseur Moussa Bagayogo de Selengue explique que la musique des chasseurs est le donsogoni.
La confrérie des chasseurs ne doit pas être banalisée. Rares sont les villages en Afrique qui n'ont pas été fondés par des chasseurs. Certaines maladies échappent à la compétence des médecins ou traditérapeutes. Mais les donso parviennent à trouver un remède à ces maladies.
Sport, le Mali reçoit vendredi prochain 25 mars la Tunisie au stade du 26 mars de Bamako. Un match comptant pour les barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022. Le match retour est prévu 4 jours plus tard en Tunisie. Les Aigles sont-ils suffisamment prêts pour aborder ce match? Ont-ils tiré des leçons de l'échec à la dernière CAN? Ces questions et bien d'autres ont été abordées hier dans le Grand Dialogue de Studio Tamani. Elisabeth Wallet Mohamed revient sur une partie de ce débat.
Le Mali n'a jamais été aussi proche d'une qualification pour une phase finale. C'est ce qu'affirme le président de l'Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali, UNASAM. Souleymane Diabaté invite tous les Maliens à s'impliquer pour réussir une qualification historique au Mondial.
Chacun doit jouer sa partition, que ce soit la fédération ou la commission technique. Tout le monde est conscient de l'enjeu, doit mettre le paquet pour que vraiment cette fois-ci que le Mali aille à la phase finale.
Le journaliste sportif Drissa Nyono garde espoir à une semaine du match aller de cette double confrontation. Il affirme que les dirigeants et le staff doivent tirer des enseignements de l'échec des Aigles lors de la CAN.
Après la CAN, l'inquiétude qu'on a par rapport aux joueurs surtout, c'est que le secteur où on n'est pas parvenu à marquer énormément de buts, c'est dans ce secteur également où des joueurs n'ont pas eu assez de temps pour essayer de s'exprimer sur le terrain. Maintenant, au-delà d'eux, il y a d'autres joueurs également qui n'étaient pas à la CAN, qui sont des Maliens et qui font de belles prestations. Et on espère que lors de la publication, on va voir ces joueurs vont être appelés pour accompagner l'équipe, vraiment pallier à ce déficit qu'on a eu à la CAN.
Le président de la FEMAFOOT avait annoncé la mise en place d'un collège d'entraîneurs composé d'anciens joueurs. Souleymane Diabaté salue cette initiative mais émonde une meilleure coordination au préalable pour éviter une cacophonie.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute dans un instant. Le magazine Toutes les femmes du Mali. Les femmes de Menamba dans le cercle de Yoroso ont du mal à accéder au centre de santé communautaire de la localité pour des visites prénatales. Cette situation est due à l'éloignement du centre de santé communautaire des villages et le manque de moyens de transport. Le CSCOM en question ne dispose pas d'ambulance. Ce sont des tricycles qu'ils utilisent pour l'évacuation des femmes du village vers les CSCOM et les CSRF de Yoroso. Boubacar Gara Sissoko, directeur technique du CSCOM de Menamba, répond aux questions de Mohamed Ali Ag Aleida.
Nous n'avons pas d'ambulance, mais il y a la moto tricycliste qui permet de l'évacuation des femmes de village vers le CSCOM et de CSCOM vers le CSRF aussi. Mon CSCOM prend en charge 10 villages. Menamba même aussi, le CSCOM, il y a deux, Menamba 1, Menamba 2. Ensuite, il y a Sela. Il y a Sogoba, il y a Bena, il y a Darkan, il y a Nyesmoana, il y a Bambelekoro, il y a Yakrissi, il y a Djonkuna.
Les femmes de ces zones viennent pour les visites prénatales.
Oui, les femmes de ces zones viennent pour les visites prénatales. Il y a dans l'air aussi, il y a deux maternités rurales, Sela et Yakrissi. Donc les villages qui sont proches de Sela, bon, à Sela, tels que Darkan, et les villages aussi qui sont proches de Yakrissi, tels que Nyesmoana, Bambelekoro, viennent à Yakrissi.
Donc s'il y a des complications au niveau de ces villages, donc on les réfère au CSCOM de Menamba?
Oui, s'il y a des problèmes dans ces villages, on les réfère à Menamba. Mais par rapport au cas de Yakrissi, comme Yakrissi a été doté aussi d'une moto tricycliste par une ONG, en cas de complications dans les villages de Nyesmoana et Sojila, elle directement vient à Yoroso.
Quand il y a des complications, comment est-ce que vous procédez?
Bon, en cas de problème, nous, le système qui est mis en place, c'était par rapport à la référence évacuation de l'ambulance qui était ici, ce serait pour Menamba. Mais vu la situation actuelle dont nous vivons, qui est due à l'insécurité, c'est la moto tricycliste qui nous permet d'évacuer les femmes de Menamba vers le CSRF.
Okay, vous avez combien de motos tricyclistes pour Menamba?
Menamba, c'est comme il y a une seule moto tricycliste, mais il y a la maternité de Yakrissi ici aussi qui dispose d'une moto. Pour parler à ces problèmes, il y a l'insécurité qui est là, qui est grandissante, mais aussi l'état des routes. L'état des routes pour faciliter au moins le système de référence de ces villages vers les CSCOM.